أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc nous avons vu l'ensemble des éléments constitutifs du contrat de mariage, à savoir donc as-sira, la formule de la demande et de l'acceptation. Nous avons vu les conditions concernant les deux époux, les empêchements légaux. Nous avons vu les avis juridiques se rapportant aux deux témoins, aux témoignages. Nous avons parlé aussi de As-Sadaq wal-Mahr, la dot, et tout ce qui a été soulevé comme question s'y rapportant. Nous avons parlé du tuteur al-Wali, les différentes sortes de tutelles et le rôle du tuteur, l'empêchement du tuteur injustifié. Nous avons abordé la question d'Al-Kafa'a, l'équivalence entre les deux époux. Nous avons abordé dans ces questions-là le problème de la contrainte en matière de mariage. Quelle est la position légale sur ce sujet? Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu des droits et des devoirs des époux sur le plan purement juridique. Et un petit peu aussi quelle est la conception islamique quant à la manière de gérer son couple et de fonctionnement de cette famille. Si on aura assez de temps, alors on passera aux différents types de contrats de mariage invalides, interdits en islam. Et je parlerai de type de mariage, que veut dire un mariage qui est, erroné, pas forcément invalide. C'est-à-dire lorsqu'il est erroné, c'est-à-dire on peut le corriger éventuellement. Et puis je parlerai d'un type de mariage qui est en vogue, surtout dans les régions du Golfe, qu'on appelle Zawaj al-Missiar, que beaucoup de frères et sœurs ne connaissent pas, et que certains juristes ont validé. Donc je vous donnerai un petit peu idée sur ce genre de mariage pour après, Inch'Allah, passer au divorce. Et donc, quelles sont ces règles et ces qualifications légales concernant. Donc, concernant la relation des époux, et si nous voulons que cette union soit réussie, on doit nécessairement parler de l'organisation de la vie du couple. Dans cette organisation, l'islam voit que chaque regroupement, chaque fois qu'il y a un groupe ou un regroupement humain, même en matière de voyage, fait safar, pour que ce voyage ne devienne pas synonyme de désordre et de désaccord, il faut désigner un responsable. Ce responsable, le prophète l'a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, Amir. Ce émir, lorsqu'il s'agit de gestion de l'État, il s'appelle imam. Ou les musulmans l'ont appelé khalifa. Celui qui succède à la Rasoul Sallam à la tête de la communauté. Ou c'est le terme légal, c'est al-imam, et on appelle donc la gestion de l'État al-imam al-uzma ou al-kubra. La grande imama, c'est-à-dire le chef de l'État. Pour la différencier de l'imam de la prière, l'imam de salat. Et l'islam préconise aussi lorsqu'il s'agit. Donc, puisque dans le voyage, il dit ici deux voyages qui nomment un émir. Cet émir, quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de mettre en exécution les décisions prises en commun. Et aussi, on lui donne, comme un chef d'exécutif dans un État, aussi les prérogatives de prendre des initiatives lorsqu'il voit qu'il y a urgence. Un chef d'État, un premier ministre ou un président, il a des prérogatives de la loi qui prend des décisions parfois sans attendre que le Parlement ne les valide, surtout s'il s'agit de situations de danger. Et bien, dans le couple, l'islam aussi a considéré qu'il faut qu'il y ait un émir. Ça s'appelle la direction, la présidence de la famille. Le terme technique coranique en la matière, c'est al-qiwama. C'est le terme al-qiwama. Al-qayyim, c'est le proviseur, comme Ibn Qayyim al-Jawziya. Ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, c'est un surnom. Son nom, en vérité, c'est Shamsuddin ibn tel un tel. Mais son père était proviseur d'une des plus éminentes écoles de hadith de Damas, qui s'appelait Al-Jawziya. Alors, on l'a appelé, lui, le fils du proviseur d'Al-Jawziya. C'est par ça qu'il est connu par ce nom, mais ce n'est pas son nom de famille. Alors, on l'appelle soit Ibn Al-Qayyim, le fils du proviseur, ou Ibn Qayyim Al-Jawziya, le fils du proviseur d'Al-Jawziya. Donc, Qayyim veut dire un proviseur, un responsable, un gestionnaire. Et donc, en vérité, c'est une charge, ce n'est pas un honneur. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a décidé que dans le Coran que celui qui doit avoir cette présidence, si je peux dire, et qui est une charge et non pas un honneur, c'est le mari, Qiwama. Et cette Qiwama lui est donnée parce que c'est lui qui doit vaquer sur le plan économique de chercher ce qui est nécessaire pour la vie du couple. Il lui incombe, c'est un honneur, mais il est obligé de, on va dire, de garantir la sécurité économique du couple. Il doit bouger, il doit travailler, il doit ramener ce qui peut mettre la famille à l'abri sur le plan économique, et en même temps il est responsable de sa sécurité même physique, vu sa constitution physique. Donc c'est lui qui doit défendre sa famille des agressions, et c'est lui qui doit garantir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit les hadiths de Rasoul Sallam et compare la situation dans laquelle la femme accepte de se mettre volontairement, qui est le fait d'accepter de devenir épouse vivant dans un couple, et compare ça à une sorte de prison. C'est-à-dire la femme, elle est libre, et elle accepte volontairement de se constituer, entre guillemets, prisonnière de quoi? De charges familiales. Parce qu'en se mariant, elle est faite par sa constitution physique telle que Dieu l'a décidé, c'est elle qui va enfanter. L'enfantement, grossesse, ce qui accompagne la grossesse, minimum 2 ans après la grossesse où l'enfant a besoin, c'est un besoin vital de la présence de sa mère, et bien la femme, elle n'a pas de possibilité d'avoir cette sécurité économique. Et bien l'islam dit c'est le mari qui doit s'en occuper, se charger. C'est même pas, comme j'ai dit, une bzia, c'est une obligation, c'est un devoir. Et par le fait que c'est lui qui bouge à l'extérieur et qu'il a la responsabilité de la sécurité physique de sa famille, Dieu lui a donné cette tutelle, si je peux dire, sur la famille, qui s'appelle Qiyama. Mais il n'a pas dit dictature, il n'a pas dit la femme elle est l'esclave, non. Il a expliqué pourquoi le Qiyama, il a dit bima amfaqou, parce qu'ils sont chargés de dépenser et de subvenir aux besoins de leur famille. C'est pour ça qu'on leur a donné cette charge. C'est-à-dire, d'une manière indirecte, lorsqu'un homme est en train de zapper en longueur de journée devant sa TV, et sa femme, c'est elle qui travaille, et après lui dit chef de famille, lorsqu'amiquement lui dit, c'est pas parce que t'as mal que l'islam t'a donné la tutelle. Il t'a donné la tutelle parce que c'est toi qui dois garantir la sécurité économique. Si tu le fais pas, bah, tu le mérites pas. Donc, Al-Qiwamatu, donc, Dieu subhanahu wa ta'ala, donc, il l'a donné parce qu'elle est nécessaire pour que le groupe fonctionne. Le groupe doit fonctionner en ayant un qui va diriger. On ne peut pas mettre deux directions. Et même lorsqu'on met une présidence collégiale, moi je l'ai essayé hein, avec certains frères, ça n'a jamais marché. On a fait un groupe, il n'y a pas de président, tout le monde est président, on décide ensemble, ça n'a pas marché du tout. Présidence collégiale. Chacun tire. Donc il faut qu'il y ait un qui à la fin tranche. Sinon ça ne marchera pas. Et donc, pourquoi? Pour que, comme j'ai dit, que les choses fonctionnent, sinon, si on accorde dans une institution, quelle qu'elle soit, que ce soit lors d'un voyage, ou dans une direction d'école, ou d'une société, ou d'une famille, on accorde des prérogatives à deux directeurs, à deux présidents, ça va être la guerre mondiale. Ça ne marchera pas. Chacun tire vers lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, donc il a choisi l'homme, disent nos savants, pour sa disponibilité. Ce n'est pas parce que c'est un mâle, j'insiste. Ce n'est pas parce que c'est un mâle, il est viril. Non, c'est pour sa disponibilité. Ça ne veut pas dire que la femme elle est moins intelligente que l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus intelligent que la femme. Non, ça n'a rien à voir. Allah, il a donné cette qualité à tout le monde, l'aql, et l'intelligence. Et la preuve, nous avons des femmes, que ce soit dans l'histoire de l'islam ou en dehors de l'histoire de la communauté musulmane, qui sont des chercheurs, des inventrices, etc. Donc l'ilm, la science, le savoir, l'intelligence, le savoir-faire, n'est pas du domaine propre à l'homme, c'est pas vrai. La femme, Dieu lui a donné la même intelligence, mais elle n'a pas la même disponibilité. Ça c'est une. Deuxièmement, parce que l'islam aussi est une religion, rappelez, on avait parlé de ça lorsqu'on a parlé de la conception de la famille, accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la question éthique et morale. La pudeur, la retenue, pas de mixité abusive, pas de pelle, pas de tête à tête, pas de mélange sans restriction entre hommes et femmes, etc. Ce qui fait que, à cause de ces éléments-là et la disponibilité, que Dieu a donné cette responsabilité. Et je répète et j'insiste parce qu'il a la charge de garantir la sécurité économique pour elle et pour sa descendance. Et donc c'est une délégation sous forme de charge et non pas d'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala a délimité cette autorité qu'il a donnée à l'homme par une condition. C'est que aucun, ni l'épouse ni les enfants ne doivent lui obéir s'il va leur ordonner des choses qui vont à l'encontre des ordres de Dieu. Et le hadith, vous le connaissez, la ta'at li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. On n'obéit à aucun homme lorsqu'il s'agit de désobéir au Créateur. Ça, c'est un principe. Donc, il est chef, mais on le désobéit s'il ordonne des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Que ce soit au niveau de la fonction de la famille, de la manière de traiter, les ordres qu'il donne. Et ça s'applique à un chef d'État, ça s'applique à un directeur, ça s'applique à tout le monde, cette règle. La ta'at li makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Le hadith il est connu, il est rapporté par Al-Bukhari. Puis il a dit sallam, ma'ruf. Si on obéit lorsqu'il s'agit du bien, le khayr. Al-Ma'ruf ici veut dire le khayr, le bien. Donc très certainement l'obéissance lorsqu'il s'agit donc d'un ordre qui est un ordre qui est conforme au bien et aux directives de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit, je répète et insiste, lorsqu'il s'agit de tutelle, il ne s'agit pas d'une dictature. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la relation conjugale et de la manière dont un homme doit traiter son épouse, il a dit « Ceux qui les méprisent, ce sont des gens pervers. Et ceux qui les honorent, ce sont des gens honorables. Ma ahanahunna illa la'imun, wa ma akramahunna illa karimun. » Celui qui honore son épouse, c'est un homme honorable et généreux. Celui qui cherche à les humilier, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à son sujet, l'homme, c'est vraiment une sorte de... C'est le fait d'utiliser son intelligence sous forme de ruse perverse pour faire du tort et du mal. Donc, ce n'est pas une qualité. Mais lorsqu'il s'agit d'une obéissance qui va dans l'intérêt de la famille et qui est conforme à ce que Dieu veut et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, la femme elle a une récompense. Qala sallallahu alayhi wa sallam, toute femme qui meurt et son mari est satisfait d'elle entrera au paradis. Le hadith rapporté par Tirmidhi. Faites attention, satisfait d'elle dans le sens, c'est-à-dire, elle n'a pas cherché à bloquer, à détruire le noyau lorsque son mari lui demande de faire des choses qui vont dans le sens de l'islam, qui vont dans le sens de la préservation du couple et aussi dans le sens que ce mari est un homme honorable. Donc ne prenons pas le hadith son mari est un vicieux, est un alcoolique, et elle est satisfaite d'elle, va aller au paradis. C'est pas ça le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de femmes dont le mari qui est satisfait d'elle, c'est un bon mari et un bon musulman. C'est celui-là dont on parle. Donc, c'est un homme croyant, un bon époux, affectueux, respectueux. Et donc, lorsqu'il demande à sa femme des choses qui sont dans le cadre de la religion, elle lui obéit, et bien celle-là, elle aura, dit sallallahu alayhi wa sallam, donc elle rentrera au paradis par cet agrément de son mari. C'est clair. Et non pas dans le sens toute femme dont le mari est agréé, elle est contente, elle va entrer au paradis. Elle est sikir, c'est un alcoolique, il lui dit de lui acheter des bouteilles d'alcool, il lui achète, alors elle est contente d'elle, elle va entrer au paradis. C'est pas ça qu'on comprend le hadith. Donc toujours mettez les hadiths dans le contexte de ce que dit Dieu et son prophète de l'esprit de l'islam. C'est très important. Parce qu'il y a des maris musulmans qui utilisent ça d'une manière abusive. Si je ne suis pas satisfait pas de toi, tu n'entreras au paradis. Oui, mais quel type est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un musulman type, lui? Comme Dieu le veut et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cela dont on parle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je devais ordonner à quelqu'un, prenez-le dans le sens figuré, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner à autre que Dieu, je devrais demander à la femme de se prosterner à son mari pour tous les droits qu'il a sur elle. Oui, mais vous savez très bien qu'un mari ne va pas dire, regarde le prophète ce qu'il a dit, viens te prosterner devant moi. Non, parce qu'en islam, on ne se prosterne que devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le geste ainsi est interdit dans notre religion, pour quiconque. Dans notre religion, on ne peut pas se courber. C'est interdit, que devant Dieu. Donc, ce n'est pas que la femme, elle va venir se courber devant son mari, ce n'est pas ça ce qu'il veut dire, C'est pour dire, il a des droits, mais je répète et j'insiste, comprenez la parole de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. De quel type de mari parle-t-il? D'un mari qui est déjà un bon musulman, respectueux des règles de Dieu, et qui est un mari affectueux, attentionné, respectable, etc. C'est celui-là dont on parle. Et moi je crois qu'une femme, si Dieu lui accorde un mari, un bon musulman, respectueux des limites de Dieu, plein d'affection, d'attention, c'est normal que toute femme va aimer ce mari-là. Et si une femme, Dieu lui accorde un mari pareil, elle fonctionne d'une manière tordue, c'est que pour de bon, elle est malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Ben oui. Si Dieu lui donne un mari affectueux, attentionné, et c'est elle qui le fait galérer, ben celle-là, elle ne mérite pas ce respect. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi. L'islam a organisé donc la vie de l'homme et de la femme une direction, mais il ne s'est pas tenu à ça uniquement, il a parlé de droits et de devoirs. Donc il y a des droits et des devoirs malgré qu'il a accordé la direction à l'homme. Donc l'homme ne peut pas dire j'ai la tutelle et c'est fini. Non, non, non. La tutelle implique des devoirs déjà, puisqu'il va être questionné. Qala sallallahu alayhi wa sallam, al-imam, le chef de l'État, ra'in wa mas'oulun an ra'iyatihi. Il est responsable et sera interrogé sur ces sujets. Et l'homme, il est responsable et sera interrogé sur sa famille. Et la femme est responsable dans le foyer de son mari, elle sera interrogée sur ces sujets. Donc chacun, au degré de ses responsabilités, va être interrogé. Il va être questionné. Il ne faut pas croire que Dieu lui a donné une tutelle ou alaykoum salam. Chaque fois que quelqu'un a une responsabilité, il faut qu'il sache que derrière, il y a directement un interrogatoire qui va se faire par Dieu s'il s'est acquitté convenablement de cette responsabilité ou non. C'est pour ça que les musulmans, les vrais musulmans et musulmanes, ils ont peur chaque fois qu'on leur délègue une responsabilité. Ils n'ont pas, ils vont faire une carte visite, voilà, je suis responsable. Pour se présenter avec partout comme un, si c'est un honneur. Pas du tout, c'est pas un honneur. C'est une réponse, c'est une amana. C'est une amana. Et d'où le fait que les gens la fuyaient, les pieux, ainsi que les compagnons, les pieux de notre communauté fuyaient ces responsabilités. Alors, quelles sont les responsabilités du mari? Avant de parler des responsabilités du mari, je vais parler d'une autre manière. Je vais dire qu'il y a des responsabilités communes. Il y a des responsabilités communes à respecter par l'homme et la femme. On les appelle en arabe hukuk mushtaraka. Ils s'associent tous les deux assez dans ses devoirs. Premièrement, le droit au rapport. C'est un droit à l'homme et un droit à la femme, et c'est un devoir de l'homme et c'est un devoir de la femme. un homme qui refuse de cohabiter avec sa femme est en état de péché. Et une femme qui se refuse à son mari est en état de péché. Que les choses soient claires, parce que par le mariage, on devient des muhsan. Muhsan. Un homme, on dit, il est muhsanun, et une femme, muhsana. Il y a le mot hisn, qui veut dire forteresse. Et parmi les choses que réalise le mariage, c'est la fortification de l'homme et de la femme au niveau de leur chasteté, par la satisfaction de l'instinct sexuel pour qu'il ne tombe pas dans le haram. Donc un homme qui se refuse à sa femme, il est en état de péché. Les savants, ils ont dit que la femme a le droit à une cohabitation minimum chaque 4 jours. C'est ce qu'ils ont dit dans les livres de droit, hein. Ils ont parlé de ça avec détail. Chaque 4 jours, minimum, une femme a le droit à une cohabitation avec son mari. Ils ont pris cela comme s'il était, imaginons, polygame. Et donc chaque 4 jours, il doit vivre avec son épouse, il cohabiter avec. Et la même chose, on a des hadiths qui menacent et avertissent la femme qui se refuse à son mari. Maintenant, ben c'est normal que l'islam est une religion logique et qui accorde beaucoup d'importance à l'affection. C'est tout à fait normal. Un homme qui rentre et voit sa femme, elle est fatiguée, elle a une migraine, elle a galéré toute la journée, surtout si elle a des petits enfants ou quoi. Il ne faut pas lui dire, oui, le prophète a dit, si tu te refuses en état de péché, etc. Il doit comprendre que ça veut dire être pas disponible. Celui qui comprend ça et qui ne comprend pas, ben, il ne comprend pas comment une femme fonctionne. Et c'est ce que j'avais insisté à ma entreprise dans mes cours et dans mes conférences, en attirant l'attention de mes frères. Malgré que vous êtes nés en Occident, soi-disant le pays où de la liberté sexuelle et tout, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont des ignares de cette question, même dans la manière dont ils doivent entretenir leur épouse. La femme ne fonctionne pas comme ça au déclic, comme un homme. J'ai répété ça 20 fois, que l'homme il agit par instinct, l'homme instinctivement, directement il tombe, il réagit physiquement, même s'il n'aime pas. Tandis que la femme, il faut toute une période. Et surtout si elle n'a pas envie, alors là, tu as devant toi un mur. La femme, elle, tout passe par son cœur et ses affections, et ses disponibilités. Si on ne respecte pas ça, ça ne marchera pas. D'où le fait que notre prophète a ordonné aux musulmans, il leur a donné une leçon de sexualité, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, lorsque quelqu'un cohabite avec sa femme, qu'il y a entre eux un messager. Et les compagnons, ils ont dit, c'est quoi le messager, Rasoul, il a dit le baiser et les bonnes paroles, et les paroles douces. فليكن بينهما رسول قال وما الرسول قال القبلة والكلام le baiser et les paroles douces pour préparer sa femme, parce que le prophète sallam sait comment une femme, est-ce que les dieux lui a inspiré cela. Et il a dit dans un autre hadith, est-ce que l'un d'entre vous n'a pas honte de se jeter sur sa femme comme un animal, il satisfait son désir, il se lève alors qu'elle n'a pas encore satisfait son désir. Pour faire comprendre, on a des gens, ils ne comprennent pas ça. Donc oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juristes après, ils ont compris que l'homme ne doit pas se refuser à sa femme. Mais un homme qui cohabite avec sa femme et une femme qui cohabite avec son mari et qui se connaissent depuis quelque temps, ça prend en considération les disponibilités, l'aspect affectif, physique, psychique de leur partenaire. C'est clair? Donc, ça c'est le devoir, mais entre dedans des éléments que vous devez prendre en considération. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui lisent des livres, ouais, tu n'as pas le droit de te refuser. Alors que pour de bon, elle a des problèmes de migraines, ou elle est au début du cycle, et toutes les douleurs qu'engendre la préparation du cycle, et puis peut-être elle est en fin du cycle, et toutes les douleurs que la femme éprouve au niveau de ses ovaires, et du dos, etc., et même de son ventre, parce que le cycle est à la fin et c'est le menstrues qui se prépare. Beaucoup de frères ne connaissent pas ça. C'est pour ça que j'ai dit une fois dans mes conférences, les frères, vous devez apprendre et lire tout ce qui est en rapport avec le hayd ou l'istihada. Vous devez apprendre ça. Ça ne concerne pas que les femmes. Pour que vous compreniez que ça veut dire une femme qui vous dit qu'elle a mal. Beaucoup de frères ne comprennent pas. Pour eux, même, c'est pas acceptable qu'une femme dit qu'elle a mal. Comment est-ce que c'est pas acceptable? Il faut que vous goûtez un peu aux douleurs, vous comprendrez que ça veut dire avoir mal lorsque les cycles menstruels se préparent. Que les femmes savent qu'elles ont toutes, elles prennent des médicaments anti-inflammatoires, anti-douleurs, tout le bazar. Oh, il débarque et dit non, on ne respecte pas mes sentiments. Quels sentiments? C'est toi qui n'es pas attentionné vis-à-vis de ton épouse. Donc il faut apprendre et comprendre comment fonctionne la religion et ne pas prendre les textes comme ça, hein, d'une manière légère et superficielle, sans prendre ce qui est à côté avec. Donc, j'ai dit, donc, droit commun, le droit au rapport. Bien sûr, parmi les devoirs, le droit, si vous savez très bien, c'est l'héritage. Une fois qu'on est marié et femme, on a le droit de s'hériter l'un à l'autre. Sauf, on va parler dans certaines situations de divorce. Parmi les droits aussi, c'est-à-dire l'interdiction de tout ce qui est lien d'alliance. Après, on ne peut plus épouser le père de son mari, on ne peut pas épouser la mère de sa femme, on ne peut pas épouser la fille de sa femme, on ne peut pas épouser le fils de son mari, ainsi de suite. On a expliqué lorsqu'on a parlé d'El Mahar, les ascendants, les descendants, la fratrie de sa femme, et tous ces éléments-là, nous avons explicités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Hukuk Mushtaraka, des droits communs. Maintenant, les droits du mari. Alors, ces droits du mari sont les suivants. L'obéissance, tant que cette obéissance, comme j'ai dit, ne va pas à l'encontre des directives divines et prophétiques. Ta'atu fil ma'ruf, obéissance dans ce qui est conforme. Pourquoi? Parce que cette ta'a incombe avec le fonctionnement du couple, puisqu'il y a une tutelle sur le couple à cause de cet élément-là. Ça, c'est un. Le fait de ne pas quitter le foyer conjugal en longueur de journée ou pendant des jours, on n'est pas là, ça, sinon la femme, elle devient ce qu'on appelle najiz, rebelle, que Dieu a parlé sur le Coran. Où est-ce que t'es? C'est pas tes affaires, elle lui dit. Quand est-ce que tu rentres? Ben, tu rentres tard, moi je rentre tard, quand je veux. Non. Vous allez me dire, oui, pourquoi un homme rentre tard? Parce que l'homme, il n'est pas aussi agressé qu'une femme lorsqu'elle rentre tard. Les statistiques dans tous les pays du monde, les agressions que les femmes subissent, c'est plus que les agressions que les hommes subissent. On n'a pas vu tellement de cas de viol d'hommes, mais tout ce qu'on a, c'est vraiment le cas de femmes violées. Rentrant tard, toute seule, par un endroit où elle a été... Eh bien, un homme a le droit de dire, par sécurité, à tel moment, tu rentres à la maison. Je ne veux pas que tu rentres plus tard que lorsque le coucher du soleil. Ou que ce soit avec un frère, ton frère, ou quelqu'un, oui, si ton frère te ramène, ou quelqu'un, oui, mais tu rentres, bah, où est-ce que tu es? J'étais au restaurant avec mes copines, je rentre à 11h du soir. Ça, c'est non conforme à l'esprit d'un couple musulman, que les choses soient claires. C'est comme ça notre religion. Et je me demande, une femme qui est mariée, qui ne veut pas voir son mari, il y a un problème là. Et lui, il rentre, il est assoiffé d'être avec elle, de discuter avec elle, de boire avec son épouse. Elle lui dit, moi je suis avec mes copines, attends. Qui a priorité? Tes copines ou ton mari? C'est ton mari qui a priorité en islam. Donc, ça c'est une. Elle doit préserver son honneur en secret ou en public, en sa présence ou pendant son absence. D'où le fait, par exemple, une femme musulmane ne peut pas se déshabiller en dehors de chez elle. Sauf si son mari lui donne son accord parce qu'elle va dormir chez ses parents, etc. Mais s'il déshabille n'importe où, etc., non. Et elle a le droit de lui dire ça, c'est son droit absolu. Pour préserver son honneur à elle et à lui. Que dire une femme qui va dans des lieux, parfois, elle ne sait pas ce qu'il y a comme sécurité ou quoi, elle s'est déshabillée pour changer ses vêtements ou quoi. On a découvert dans certains pays que le propriétaire de magasin, il avait installé une caméra, et il a filmé les femmes qui se dénudaient, et puis il a mis ça sur les nets et tout. Même dans des pays arabo-musulmans, ils ont fait ça. Donc il a le droit d'exiger d'elle cette attitude-là et ce comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des croyantes, dans la sourate 4, verset 34, il dit que ce sont des femmes qui préservent l'honneur, même dans l'absence. Il a dit, « فَالْمُؤْمِنَاتُ فَالصَّالِحَاتُ » Les pieuses d'entre elles, « قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ » C'est ça ce que dit « حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ » C'est-à-dire, lorsque même leur conjoint n'est pas là, elles préservent l'honneur de leur mari. « حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ » Il a le droit d'exiger d'elle de ne pas faire entrer chez lui une personne qu'il ne désire pas. C'est son droit. Puisque nous allons voir que celui qui a la charge de la famille, de préserver, de préparer le lieu conjugal, tout ce qui va avec le lieu conjugal, c'est le mari. C'est lui qui doit préparer la maison et ce qui va avec. Il dit, j'ai pas envie que ta copine, c'est ta copine que tu as connue à l'école, mais je veux pas qu'elle vienne chez moi. Pourquoi? Parce que je l'ai vue... avec preuve, elle est dévergondée, elle est légère, etc. Moi, je ne veux pas de ces personnes-là chez moi, c'est son droit. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'une fois, j'étais témoin, une sœur a préféré sa copine sur son mari. Et le résultat, c'était le divorce. Et sa copine, moi je l'ai vue, la hawla la quwwata illa billah, déshabillée, habillée. Il lui a dit, moi je ne veux pas que les gens se retournent sur toi avec elle dans la rue. Ça, il est hors que de question. Elle lui a dit, moi je ne peux pas me séparer de ma copine. Alors il lui a dit, tu restes chez ta copine, salam alaykoum, et ils ont divorcé. Voilà. Ça, c'est une femme qui n'a pas compris ce que dire être mariée, selon la conception musulmane. Et donc moi je vous dis ce qu'il y a comme ordre, c'est dans le hadith de la Sallallahu Alaihi, ce que je vous dis, hein, c'est pas moi qui invente quoi. Donc elle n'a pas le droit de faire entrer des personnes dans chez lui, et surtout des personnes étrangères, même parmi ses copines et ses amis, s'il y a crainte de qu'elle sème des ordres ou attire que cela en résulte des jugements négatifs envers la famille et sa moralité, c'est son droit absolu. De même, elle a l'obligation de veiller sur la préservation de la vie du couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même demandé à la femme de ne pas accomplir le jeûne surrogatoire sans avoir informé son mari. Pourquoi? Pour que psychologiquement il soit préparé. Imaginons, elle ne lui a pas dit, il rentre lui. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme, il réagit par instinct. Elle était dans la rue, Shaitan lui a suggéré l'idée, elle a vu une femme, entre guillemets, belle. Et alors, il a eu les idées dans sa tête, il rentre et dit, A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, moi j'ai ma femme dans le halal, je vais cohabiter avec mon épouse. Il débarque, il lui dit, non, je jeûne. Il est frustré, le type, il reste jusqu'à attendre le soir, etc. Alors le prophète a dit, qu'elle lui annonce ça. Elle lui dit, le soir, tu sais, demain, inshallah, je vais jeûner. Et donc, c'est psychologique, ça. Ça prépare l'homme, psychologiquement. Imaginons qu'elle était en jeûne surrogatoire le lundi, et son mari lui rentre, lui dit, je te désire. Islamiquement, elle arrête son jeûne et elle répond au désir de son mari. Maintenant, on peut pousser loin le bouchon. Si une femme et son mari se sont tellement, il y a tellement de complicité entre eux, et qu'un jour elle rentre et lui dit « je te désire », et si le jeûne est surrogatoire, pour moi, il doit le faire la même chose. Moi, je pense que les choses comme ça doivent fonctionner. Dans un couple, il y a de la complicité, de l'amour, et du respect et de l'attention. Moi, je pense. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de dire, mais il y a d'autres, elles arrivent à une complicité avec un mari, qu'elle est capable de dire à son mari. Et donc, pourquoi pas, oui. Pourquoi? Maintenant, vous allez me dire juridiquement, est-ce que c'est permis? Oui. Parce qu'il y a un hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, « As-sa'imu amiru nafsihi ». Celui qui fait un jeûne surrogatoire, il est maître de sa décision. D'où le fait que l'imam chef ait dit qu'elle a le droit d'arrêter son jeûne. Pour une raison ou sans raison. Vous avez commencé à jeûner un lundi, puis à midi, vous dites, j'ai plus envie de jeûner. L'imam chef dit, vous avez le droit. Et vous n'êtes pas en état de péché. Parce que le hadith, il est là. Le jeûneur est maître de sa décision. Que dire lorsqu'il s'agit de préserver ou de répondre à une demande de son mari ou de sa femme? Et même c'est un acte louable même. C'est clair? Donc c'est pour ça que je dis, notre problème, nous on vit même au niveau de ces questions-là, dans un état de frustration, alors que l'islam il a répondu à tout ça. Normalement dans un couple musulman, un homme et une femme doivent être épanouis à tous les niveaux, sexuellement, affectivement, tout. Normalement, si on comprend les hadiths et l'esprit de l'islam. Et moi je ne comprends pas honnêtement des gens qui se disent pratiquants, engagés dans la voie de la pratique religieuse, et on entre devant ça, et ils nous disent ce discours-là, et puis tu as un époux frustré et une femme frustrée. Je dis, là il est Allah, où est-ce qu'il est l'engagement, la compréhension de l'islam là-dedans? Normalement, lorsqu'on se marie, il doit être épanoui. Un homme qui se marie doit être heureux, épanoui, de rentrer chez lui, de retrouver sa femme. Et une femme mariée islamiquement avec un bon musulman, normalement, doit être une femme heureuse et épanouie. À tous les niveaux, affectivement, sexuellement, tout ce que vous voulez. Et nous, on n'a que des gens qui sont complexés, frustrés, et qui se renseignent, ce qu'il n'y a pas de psychologue musulman parce qu'on a des problèmes. Je ne comprends plus rien, moi. Voilà, je ne comprends rien. C'est triste hein, d'arriver à des situations alors que tout est devant nous. Parmi donc les obligations de la femme envers son mari, répondre à sa bonté par la bonté. إذا كان هو محسن, il cherche l'excellence et la bonté dans sa relation, une bonne épouse musulmane, elle doit répondre à ça par la bonté. D'où le fait que l'islam n'accepte pas une femme qui soit vulgaire, dure, mauvaise langue avec son mari. Il y en a. C'est vrai qu'il y a des, on va venir aux hommes violents, etc. Mais je vous assure qu'il y a des frères, des sœurs aussi. Son mari commence par les insultes, il y a un maqcharaj, elle n'était pas un homme jusqu'à l'ahmar. Ah, il y en a, hein. Et tu vois, lui, il essaie de repousser la violence de sa femme, et lui, il est gentil. On a, moi, j'en connais, hein. Donc, il n'y a pas chose qui peut tuer la relation conjugale que la vulgarité et la dureté. Je vous l'assure. Un homme qui vient avec tellement d'attention et d'intention, et puis il découvre qu'il a une femme qui est dure, de caractère vulgaire, qui n'est jamais reconnaissante, petit à petit, le sentiment, elle le tue. Jusqu'à ce qu'ils deviennent deux étrangers qui se côtoient, et puis ça finit par la rupture. Et la même chose, une femme qui vient avec tellement de bonne volonté, de bonnes intentions, et elle se retrouve devant un homme qui la frustre chaque fois, qui la rejette, qui la méprise, qui est vulgaire et tout, ça casse. Il n'y a pas plus grave que la vulgarité et que la dureté comme cause pour détruire les couples, et d'où le fait que notre professeur nous a recommandé d'être doux, de part et d'autre. Ça s'appelle en arabe al-rifq. Il a dit, sallam, chaque fois que la douceur se mêle à quelque chose, elle ne fait que l'embellir. Et chaque fois que la vulgarité se mêle à quelque chose, elle ne fait que l'enlaidir. Il parle ici, rifq fil mu'amala ou fil kalam. La douceur dans la manière de se comporter et de parler à l'autre. Ou Rasoul sallam, il était quelqu'un de doux. Faites attention, la douceur ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible. Vous pouvez être quelqu'un de ferme sans être vulgaire. La fermeté ne peut pas être et ne veut pas dire forcément avoir comme synonyme la vulgarité, n'a rien de loi. Je suis quelqu'un de ferme dans mes propositions, dans mes principes. Lorsque je décide parce que je considère que c'est dans le bon chemin et c'est comme cela que ça plaît à Dieu et c'est dans l'intérêt de ma famille. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris une décision et je dis je suis ferme que je dois l'expliquer ou l'exprimer par la vulgarité et la violence. La violence, elle est le langage des faibles. La violence est le langage des dictateurs, que ce soit au niveau politique ou au niveau des familles. Regardez autour de vous, c'est dans les dictatures qu'il y a les ministères de l'Intérieur qui sont les plus fortes, que le ministère de la Défense nationale. Un homme qui n'est pas capable d'imposer les règles parce qu'il a raison, et il recourt à la violence verbale et physique, c'est qu'il est faible. Et vice-versa. Et notre prophète donc nous a recommandé la douceur comme un élément important. Et donc c'est pour ça que notre prophète sallam insiste auprès des femmes pour qu'elles ne renient pas la bonté et la bienfaisance de leur mari. Même qu'il leur a menacé en leur disant « Je vous ai vu celle qui peuple le plus l'enfer ». Après, lorsqu'il est retourné de l'ascension, et lorsqu'elles ont posé la question, hommes et femmes, ils ont dit « Pourquoi ?» Il a dit « Les annahunna yakfurna » parce qu'elles renient. Et les compagnons ont cru par le terme « kufr » qu'il s'agit de renier Dieu et son prophète. Il a dit « Non ». Il a utilisé le verbe kofre ici dans le sens reniement, parce qu'elle renie les bienfaits de leur mari, de leur époux. Et il a dit, elle a dit, l'homme il fait tant qu'il peut avec elle, et puis elle vient lui dire, j'ai jamais vu du bien avec toi. Jamais. Omri ma shaft al khair ma'ak. Ça, les femmes l'utilisent beaucoup, cette formule-là. Alors faites attention que votre prophète sallam vous a dit de ne pas l'utiliser. Comme j'ai dit une fois, dites à ce moment-là, en ce moment-là, je ne suis pas heureuse avec toi. Aujourd'hui ou cette semaine, tu as été injuste envers moi. Mais ne dis jamais, jamais j'ai été heureuse avec toi. Et on dit, on est mariés depuis 10 ans. Jamais. Haram, c'est du mensonge. C'est pas vrai. Lorsque vous êtes malheureuse, vous dites, je suis malheureuse maintenant. Tu as été injuste envers moi maintenant. Mais ne dites pas jamais. Parce qu'à force d'utiliser cette formule, ça coupe et ça rompt les liens. Et l'homme dit, mais c'est pas possible, je suis devant une personne ingrate. À quoi ça sert de vivre avec? Donc, faites attention, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les devoirs de la femme qu'elle ne demande pas à son mari, au-delà de ses capacités financières ou physiques. Si Dieu, subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne charge que l'être humain de ce qu'il est capable de faire. Que dire lorsqu'on vient un être humain? Donc, une femme censée, une femme sage. Elle s'est mariée avec son mari, elle sait qu'il a par exemple une rentrée et un salaire limité, qu'elle ne vient pas lui demander des choses dont il sera incapable de satisfaire jusqu'à le pousser peut-être à commettre l'interdit. Elle le pousse à faire le haram. Ou s'il refuse lui par crainte de Dieu, alors elle va lui mener la vie dure. À longueur de journée, la même musique. Jusqu'à ce que la faim, il explose et alors on peut arriver à des situations graves dans le couple. Donc parmi les devoirs de la femme musulmane, c'est qu'elle ne demande pas à son mari au-delà de ses moyens financiers. d'être sincère avec lui, d'être sincère dans l'éducation de ses enfants. Puisque le premier creuset, c'est la maman. On n'a pas dit que le père n'est pas responsable dans l'éducation. Mais surtout les premières années, les premiers mois, les premières années, l'enfant, il est plus collé à sa mère qu'à son père. Et donc, il faut qu'elle allaite à son enfant sur le plan physique, dans le bon allaitement, mais sur le plan moral, qu'elle allaite aussi des principes et des valeurs. Donc ça, ça fait partie de ses devoirs. Et ça fait partie donc de sa mission. Donc ça, c'est pour concernant donc ce point. La famille, donc, c'est un lien sacré en vérité, le lien familial. Où il y a, comme j'ai dit, droit et devoir, il y a bien bonté, il y a soutien. Quels sont les devoirs de l'homme maintenant? Je vais venir, j'ai laissé exprès certaines questions d'ordre juridique. Est-ce qu'elle est obligée de s'occuper de la maison ou non? J'en ai parlé exprès, j'ai laissé. L'homme a comme obligation, bien sûr, la sécurité économique, à savoir le logement, la nourriture, l'habillement et les soins, selon ses capacités. Ça fait partie des devoirs de l'homme en islam. Si un homme accepte que sa femme travaille parce qu'ils ont discuté, il lui dit d'accord, tu peux travailler, il ne lui incombe pas à cette femme de participer aux charges familiales. Il ne lui incombe pas, elle n'est pas obligée, islamiquement. Si elle le fait, c'est de bon cœur. Mais il ne peut pas lui dire, puisque tu travailles, tu me donnes la moitié. Il ne peut pas, islamiquement. Je suis clair, hein. Et si elle ne veut pas participer, donc il a un salaire de 1500, il loue à 400, elle doit accepter. Elle ne va pas lui dire, oui, pourquoi tu ne me loues pas un appartement dans la banlieue, là, chic. Si elle veut participer, c'est son droit. Mais si elle ne veut pas participer, elle ne peut pas lui demander d'aller habiter dans les quartiers chics. Peut louer que dans un quartier populaire par 400 euros, ben c'est sans ses moyens. Ça va? Ça, c'est le principe. Parmi les devoirs de l'homme, bien sûr, le respect et le bon entretien sur le plan affectif et le respect de ses sentiments. L'homme doit respecter les sentiments de sa femme. D'où le hadith, le prophète, il a dit, donc, « Oma akramahunna illa karim » ne peut les honorer qu'un homme généreux et honorable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on insulte sa femme, qu'on la frappe et qu'on la maltraite, surtout en public. Surtout en public. J'insiste, hein. Le hadith, il est là, donc il a interdit que quelqu'un insulte sa femme en public, devant les gens. Les gens, c'est-à-dire même devant son père ou sa mère à lui ou quoi, il ne peut pas. Et lorsqu'il y a des accords, on en parlera à la maison, c'est-à-dire, c'est pas frappé comme beaucoup de gens ont compris. Il faut être plein de compassion et de pardonner, entre guillemets, s'il y a erreur de la part de son épouse, lorsqu'il se souvient de toutes ses bonnes qualités. Comme le dit le hadith de Muslim, un croyant ne méprise pas une croyante si un comportement en elle lui déplaît, d'autres comportements en elle lui plaisent. Donc il se rappelle au moment des difficultés, qu'il se rappelle toutes les qualités de sa femme et non pas, il laisse la cause de ce différent. Préserver sa pudeur et sa chasteté, d'où le droit, donc, comme on l'a dit, dans l'intimité, puisque le prophète a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, en s'adressant à Sayyidina Abu Darda, « Et ta femme a des droits sur toi », il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il avait négligé et il avait... Il menait une vie, on va dire, nocturne d'adoration, jusqu'à négliger sa femme, et le prophète lui a fait ce rappel en lui disant, et ton épouse a des droits sur toi. Il ne faut pas parler de l'intimité de sa femme en public. Ça fait partie des droits de la femme et des devoirs de l'époux, et bien sûr, ce devoir aussi incombe à la femme. C'est-à-dire, un non-musulman ne peut pas raconter son intimité ou comment est-ce qu'elle est sa femme, etc., à ses copains. C'est un acte parmi les péchés majeurs. De la même façon, une femme ne peut pas parler de son intimité ni des qualités, entre guillemets, performance physique de son mari à ses copines ni ses amis. C'est interdit. Ni des défauts aussi. Ça fait partie de l'intimité et de ce qu'on appelle de l'aman, asr, du secret familial. Et donc, on ne peut pas. La femme qui le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a maudite. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes parmi les personnes qui auront le plus mauvais châtiment au jugement dernier, l'homme qui cohabite avec sa femme, puis il parle de ce qu'il a vécu avec elle en public. Hadith rapporté par Muslim. Lui permettre de visiter sa famille et permettre à sa famille de lui rendre visite, parce que cela fait partie des liens de parenté. Et l'islam a interdit la rupture des liens de parenté. Donc un homme qui empêche sa femme d'aller rendre visite à sa famille ou que sa famille lui rende visite est un homme qui a rompu, qui a coupé les liens, et celui-là n'entre pas au paradis, a dit Rasoul Sallam. Le prophète a dit, celui qui rend ses liens de parenté, il n'entrera pas au paradis. Et donc, même il y a des savants qui vont très loin hein, concernant les visites. Ici, ils disent, par exemple, je vous donne un avis, hein, et elle a le droit de rendre visite à ses parents, même sans sa permission. La femme a le droit de rendre visite à ses parents, même sans la permission de son mari, parce que cela fait partie du maintien des liens de parenté. Et le fait de couper les liens de parenté est un ordre, est un contre-ordre à l'ordre de Dieu, qui a dit, on n'obéit pas à quelqu'un lorsqu'il s'obéit de désobéir au Créateur. Et même certains savants disent, et les parentés, ce n'est pas uniquement son père et sa mère, ça peut être son frère et sa sœur, ou sa tante. C'est Cheikh Abu Zahra qui rapporte ça. C'est l'avis de l'école Hanafite et des autres écoles. Abu Yusuf, le compagnon d'Abu Hanif, a dit, elle a le droit de sortir de chez elle pour rendre visite à ses parents et à ses mahram, c'est-à-dire frères et sœurs, neveux, nièces, sans la permission de son mari. Et s'ils sont incapables de lui rendre visite, ils ont le droit, eux, de lui rendre visite. Et si parents, et même si ses parents ne sont pas des musulmans, car la bonté envers les parents est une condition et un devoir en islam. Donc un homme qui dit, ouais, il y a le hadith là, la femme là, dont le père était mourant et n'est pas parti rendre visite à son mari, à ses parents, parce que son mari lui a dit ne sors pas. On connaît le hadith. Et puis on lui a dit que ton père, non, il lui a dit son père était malade. Elle s'est rappelée que son mari lui a dit de ne pas sortir, puis son père est mourant et ton père a été enterré. Oui, c'est un cas. Mais la règle en islam qui a été déduite par tous les juristes musulmans, qu'aucun musulman ne peut dire à sa femme, je t'interdis de sortir même d'aller rendre visite à tes parents. Il est dans une position non conforme à l'islam, elle lui désobéit, elle s'en va. C'est clair, parce qu'on a des frères là, qui ont même il y en a certains qui ferment à clé, je ne sais pas d'où ils ont sorti ces textes. C'est ahurissant, c'est-à-dire pour de bon les prisonnières là, c'est Guantanamo. Non, il ne faut pas jouer avec la religion musulmane et prendre les lettres d'une manière ainsi. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, elle n'est pas son objet, elle n'est pas sa chose. Il a des droits, oui, qu'il trouve sa femme à la maison, par sécurité, qu'elle est avec lui. Il y a la solidarité, la présence, etc. Et son obéissance à son mari en islam est prioritaire par rapport à son obéissance sur ses parents. Parce qu'une femme, dès qu'elle se marie, les parents n'ont plus de droit sur elle. Ça, c'est juridique, c'est tous les juristes musulmans. Sa mère lui dit, tu fais pas ça parce que ton mari t'a demandé, mais moi je le demande. Elle n'obéit pas à sa mère. Son père lui dit, tu fais ça. Alors que son mari lui dit, je ne veux pas que l'on fasse cela. Elle ne fait pas. Elle doit obéir à son mari avant ses parents. Ça, c'est la règle sur laquelle il y a unanimité chez les juristes. Mais que le mari utilise ce droit que l'islam lui a donné de tutelle et le droit d'obéissance de la femme pour lui dire « et je coupe tes liens de parenté », là, elle n'obéit pas. C'est clair? Et donc ça, c'est la position des juristes, et je n'invente pas, donc je vous donnais l'exemple de l'école Hanafite, comme l'a été rapporté par Cheikh Abu Zahra, rahimahullah, dans ce livre, « L'Ahwal al-Sharsiyya ». Parmi les devoirs du mari, aider sa femme dans les charges familiales, en suivant le modèle de Rasulallah et sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha a été questionnée comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Elle a dit, il était comme l'un d'entre vous. Il était au service de sa famille. Il balayait la maison, il leur coupait la viande et il cousait ses vêtements. Et lorsque c'est l'heure de la prière, il ne le reconnaissait plus. Là, c'est le droit de Dieu qui supplante toutes autres choses. Mais le problème, c'est qu'on a certaines sœurs, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on m'a dit qu'il y a une tendance féministe qui est en train d'émerger dans la communauté. J'ai eu peur, moi, parce qu'il faut que je conseille à ses sœurs et aux frères de lire dans la série Que sais-je, le livre qui s'appelle, qui a pour titre Le féminisme. Et vous allez voir que les causes de l'émergence du féminisme en Occident n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le monde musulman. Ce sont des réalités différentes. Le féminisme est né parce que la femme a été exploitée, elle était travaillée même dans les mines, elle était comme un esclave avec les enfants là qui travaillaient dans les mines et tout, et donc c'est émergé pour certains droits qui n'ont acquis que vers les années 60, même le droit de vote. En Suisse et ailleurs. C'est récent. Ça, je comprends. Mais l'islam a dit à la femme, elle a le droit de travailler. Elle a le droit à la propriété privée. Lorsqu'elle se marie, elle garde son nom de son père. Elle ne devient pas la femme d'un tel. Elle signe ses contrats d'achat, de vente, de donation. Le mariage n'est valide que par son consentement et sa signature. Elle peut se libérer du lien matrimonial, soit en mettant ça comme condition dans son mariage, dans son contrat en disant, je veux que ma ismati soit entre mes mains. C'est-à-dire, je veux me rompre ce lien quand je le veux. Si le mari l'accepte, et bien le jour où on lui dit je me divorce, il dit je te divorce. Salam alaikum. Il lui a donné Dieu dans le Coran l'khola, le droit de se libérer du lien matrimonial sans aucune raison, mais en rendant la dot. Il y a tellement. Elle a le droit d'être écoutée par le juge. Elle a le droit de se marier sans l'accord de son tuteur si c'est l'empêchement est un empêchement illégal. On appelait l'adl. Donc il y a tellement de droits. Il lui a donné le droit à l'héritage, au témoignage. Je ne comprends pas. Alors ce féminisme est devenu, d'après ce que j'ai entendu dans le gars de certains, c'est-à-dire, tu t'appelles Mohamed, je m'appelle Fatima, tu rentres à 11h, je rentre à minuit. Tu fais 50% du ménage, je fais 50% du ménage. Tu fais, hein. 50%, je fais 50%. J'étais choqué lorsque j'ai entendu ça. On marche dans la rue, je marche même devant toi. Hein. Pourquoi tu marches de toi devant, voilà, ou à côté de toi? Non, je marche devant toi pour montrer que j'ai là aussi la supériorité. Mais c'est devenu une guerre mondiale, ça. C'est pas le couple musulman, ça. On n'est plus dans un couple musulman, là. On est dans un couple de boxeurs. Oui, donc je ne reconnais plus l'islam là-dedans. Donc on m'a parlé de féminisme et de femmes qui disent... Vous savez, l'islam dit que l'homme et la femme sont égaux. Dans leurs droits et devoirs, ils sont différents physiquement et psychiquement, et leur relation est une relation de complémentarité. C'est ce qu'elle dit l'islam. Mais l'islam ne voit pas l'utilité qu'une femme, elle soit, je ne sais pas moi, éboueur, ou mécanicienne, ou maçon. Il ne voit pas l'utilité au nom de l'égalité qu'elle soit maçon, qu'elle a des madriers sur ses épaules, et puis son mari touche, il trouve, je ne sais pas, musclor, il ne trouve pas une épouse. C'est quoi ce bazar-là? Ou une femme qui rentre avec des ongles qui sont pleins de sale parce qu'elle est mécanicienne. Ou sakhouham, ou fham, et tout, je sais quoi. Alors qu'Islam veut que la femme garde sa féminité, l'homme garde certains aspects de virilité, parce que c'est la différence qui fait le couple. Un homme, une femme, un mâle, une femelle, c'est ça ce qu'Islam demande. Et donc on est devant des choses, des lectures qui sont bizarres, et on entend de plus en plus de personnes qui parlent de féminisme, je sais pas moi. Moi je parle de droits et de devoirs qui sont là dans notre religion. Et je vous conseille de lire ce livre, hein, dans la série Que sais-je, le féminisme, et vous, comme ça vous verrez les causes. Et regardez, est-ce que ces causes sont les mêmes que justifient, par exemple, ce qu'on entend autour de nous. Et surtout lorsqu'il s'agit de gens qui se disent musulmans et musulmanes, convaincus, et qui disent « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » et qui disent que leur source et leur référence est le Qur'an et la Sunna. Lorsque vous n'avez pas, lorsque ce qu'on vous demande de faire va à l'encontre du Coran et de la Sunna, alors là, vous devez désobéir. Mais si l'ordre vient de Dieu, l'ordre vient de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'homme ou pour la femme, comment est-ce qu'on peut se dire musulman désobéissant à ces ordres? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, au niveau de notre foi. Parce que Dieu ne dit-il pas dans le Coran, Ati Allah wa Rasul, obéissez à Dieu et aux messagers? Et l'ordre s'adresse aux hommes et aux femmes. Ati Allah wa Rasul. Obéissez à Dieu et aux messagers. Alors là, nous avons des ordres de Dieu et nous avons des ordres de Rasulallah sallam. Qu'est-ce qu'on en fait comme étant musulman? On dit ces textes ne sont plus valables? On dit ces textes, il faut les faire évoluer? Parce qu'ils étaient d'actualité au premier siècle de l'Hégire, mais maintenant ils ne sont plus d'actualité. Si on va aller dans ce sens-là, c'est que nous sommes en train d'adorer un prophète, un Dieu ignorant, et dont le savoir est incomplet, et il a besoin de l'intervention de l'homme pour le parfaire. Eh bien, moi, j'adorerais pas un Dieu de cette qualité-là, qui est plein de défauts. Nous croyons que le message est un message d'origine divine, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a la perfection même, dans son être et dans ses attributs, et dans son savoir. Donc faites attention donc d'être vraiment attentif à ces éléments. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dédaignait pas être au service de sa femme, comme le hadith a été rapporté par l'imam Tabarani, parmi les devoirs de l'homme, le respect de la propriété privée de la femme, de sa femme. Il ne peut pas toucher un centime de sa propriété sans sa permission. Sa dot, c'est sa propriété privée. Ce que ses parents ou ce qu'elle reçoit comme don, c'est sa propriété. Son salaire, c'est sa propriété. Son héritage, c'est sa propriété privée. Donc, il ne peut pas toucher la propriété privée de sa femme sans sa permission. L'ordre, il est clair, que ce soit dans le Coran et la Sunna. Alors maintenant, parmi les devoirs de l'homme, la justice, être juste envers sa femme. Comme on lui demande des choses dont elle doit s'acquitter, elle a le droit à des choses équivalentes. Dieu dit dans la sourate Al-Baqara, le verset 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits comme elles les devoirs qui leur incombent. Puisqu'on demande aux femmes de s'acquitter de devoirs, Dieu dit, mais faites attention, elles ont aussi des droits. Et je vous ai cité la position d'un grand érudit de l'islam, qui a refusé de se marier parce qu'il a dit ce verset me fait peur. Je vous assure, c'était un tabi'i. Il ne s'est pas marié, il a dit je ne me suis pas marié parce que ce verset me fait peur. Parce que Dieu dit elles ont les mêmes droits que les devoirs que vous leur demandez. Eh bien j'ai peur de ne pas m'acquitter de mes droits, il a dit, de mes devoirs. Alors j'ai peur de ne pas être juste, de ne pas être attentif, de ne pas être ceci. Il dit ben, je préfère être célibataire que de... Ça c'est un alim parmi les tabi'in. Il avait peur de ce verset. Donc, parmi les droits de la femme, al-mut'ah, dont je reviendrai après, c'est-à-dire c'est un cadeau de séparation. J'en parlerai avec plus de détails, la samahala, lorsqu'il y a rupture du lien conjugal, matrimonial. Et bien sûr, on a parlé de la prise en charge, qu'on appelle, j'ai parlé, c'est le logement, c'est l'habillement, c'est les soins médicaux, c'est l'entretien qu'on appelle en un terme général qui s'appelle nafaqa, la prise en charge. Cette prise en charge est un devoir. Et l'homme qui ne l'assume pas, Abu Hanif, il a dit, il peut être emprisonné. S'il ne s'acquitte pas de ce devoir vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, c'est un devoir. La question juridique ici, la femme qui travaille a-t-elle droit à la nafaqa, à la prise en charge? J'ai dit que si elle travaille avec son accord, elle a toujours le droit à la prise en charge, malgré qu'elle a des rentrées. Les juristes sont unanimes sur cette question-là. Mais ils ont dit, les savants, imaginons que son mari lui dit, je veux que tu arrêtes de travailler. Elle lui dit, je ne veux pas. Certains juristes hanafites, ils disent, si elle ne veut pas arrêter de travailler, il ne lui incombe plus de s'occuper de la prendre en charge. Certains juristes hanafites disent, si elle refuse d'arrêter de travailler, elle n'a plus le droit à la nafaqa parce qu'elle est dans un état de femme najiz, de femme rebelle, puisqu'elle refuse d'obéir à son mari et de suivre, donc de répondre à son attente d'être disponible à la vie familiale en plein temps. Donc voilà ce qu'ils disent lorsqu'il s'agit d'une femme qui refuse. La question de l'entretien familial, cuisiner, s'occuper de tout ce qui est vêtements, etc., le ménage, on va appeler ça. Abu Hanifa, l'imam Malik, al-Shafi'i, disent que il n'y a pas de preuve qu'elle est obligée de s'acquitter de ce devoir. Il dit, on n'a pas dans les textes, mais en vérité les textes disent que la chose qui est due au mari, c'est les rapports conjugaux. Ça c'est un devoir, et la femme par le mariage, elle ne peut pas refuser. Mais le fait qu'elle s'occupe du ménage, il dit, il n'y a pas de preuve qui demande cela. Cependant, nous avons de l'autre côté les prédécesseurs pieux, salaf, ceux de la première génération et partie de la deuxième, ils disent, elle doit s'acquitter de ses devoirs parce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, ainsi que Sayyida Fatima et d'autres l'ont fait. Et vous connaissez le hadith de la Sayyida Fatima lorsqu'elle est venue voir Rasulallah, son père, lui dit à Rasulallah, je suis fatigué à force de travailler, est-ce que tu ne peux pas me donner à mon service un domestique? Alors il lui a appris de faire un dhikr, certaines formes de tasbih, pour que Dieu soulage sa fatigue. Et donc il dit, si la charge familiale, l'entretien de la famille, le ménage ne revenait pas de devoir à la femme, le prophète l'aurait dit, lui dit sans cesse clairement, mais tu n'as pas à le faire. Ça c'est un, et puis ils disent, ça fait ça les compagnons, et Ummahat al-Mu'minin, toutes les épouses du prophète sallam l'ont fait avec Rasulallah sallam, et cela prouve donc que cela fait partie de ses devoirs. En plus, le hadith de Rasulallah sallam dans lequel il a dit, et la femme elle est responsable dans le foyer de son mari, et elle sera interrogée sur sa responsabilité. C'est une preuve qu'elle a une responsabilité qui lui incombe. Donc je répète, vous avez la position de juristes comme l'imam Malik, Abu Hanif al-Shafi'i, que le contrat de mariage ne donne en vérité droit pour l'homme que à l'intimité. Et que la charge familiale, le ménage, ne lui incombe pas parce que ça ne fait pas partie des éléments qui incombent à la femme par le contrat. Salaf Salah, les prédécesseurs avant eux, surtout les compagnons, disent si cela fait partie de ses devoirs, et la preuve, les épouses du prophète sallam l'ont fait. Sayyida Fatima, la femme de Zubayr, là, on a des hadiths qui parlent qu'elle sortait, ainsi que le hadith que j'ai cité, prouve et montre que la femme entretenait leur mari, s'occupait de la charge familiale, et si cela n'était pas un devoir, le prophète sallam l'aurait dit même à sa fille qu'elle n'avait pas à le faire lorsqu'elle est venue lui demander une aide pour pouvoir s'acquitter de ses responsabilités familiales. On va s'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau-là, pour faire la prière du Maghreb, et puis nous reprendrons, si Dieu veut, pour le reste, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.